ces quatre bougies qui brûlent sur la table. La paix, la foi, l'amour et l'espérance me rappellent une exhortation que nous avait fait Étienne. Et il nous rappelait l'histoire du pont de singe. Vous savez, les ponts de singe, vous avez à droite une corde, à gauche une corde, et puis vous avez une corde au milieu sur laquelle vous marchez. Et que vous ne pouvez avoir un équilibre et en fait être en paix que lorsque vous tenez à droite l'amour, que lorsque vous tenez à gauche la foi, et que lorsque vous marchez sur le fil de l'espérance. L'épître aux Corinthiens se termine, enfin au chapitre 13, se termine, et voici trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et vous voyez que dans le choix de Paul, l'espérance est au milieu. Étienne nous avait redonné une image de quelqu'un qui court avec ses deux mains derrière, la foi et l'amour, et c'est l'espérance qui les tracte. Un petit peu comme cette espérance qui a rallumé ces trois bougies, c'est quelque chose de tellement important. Mais la plus grande de ces choses, nous dit Paul, c'est l'amour. Je suis toujours surpris lorsque, lors d'une célébration, on ne se met pas d'accord nécessairement les uns avec les autres. Et puis, il y a des textes qui reviennent. Donc, si ces textes reviennent, c'est que c'est important. Et Pierre-André, tu le découvriras. Lorsque j'étais fiancé, j'étais invité, bien sûr, chez mes beaux-parents. Et ma belle-mère me disait... Alors, Richard, qu'est-ce que vous faites pour les rameaux ? Les rameaux, mais je ne savais absolument pas ce que c'était. Dans ma culture, je ne savais pas du tout ce que c'était. Elle dit, vous ne savez pas ce que c'est, les rameaux ? Pourtant, vous êtes chrétien, Richard. Mais je ne savais pas, en fait. Mais je ne savais pas ce que ça s'appelait comme ça. Les rameaux, c'est lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem et que les gens ont mis effectivement des branches sur le sol pour que l'âne sur lequel... était Jésus, puisse marcher et crier « Hosanna ». Il voyait en lui le Messie. Tout le peuple l'acclamait pour cette montée à Jérusalem. Et vous savez de quelle manière dramatique ça va se terminer. Mais la fête des rameaux, c'est ça, 6 jours avant Pâques, 4 jours avant l'arrestation de Jésus. Eh bien, c'est cette fête-là qui est célébrée actuellement, aujourd'hui. Et je me disais qu'à l'époque, j'étais vraiment inculte par rapport à cette culture omniprésente dans notre France, et qu'il faut savoir que parler la langue des autres si vous voulez juste communiquer. Et franchement, j'étais pas très fier de moi de ne pas savoir ce qu'était la fête des rameaux à l'époque. Les textes qui ont été choisis, le premier texte vient du livre d'Ésaïe, chapitre 50, et Pierre-André nous a lu le chapitre 53 en partie. Mais il y a quelques chapitres qui parlent du serviteur souffrant. Et voici le texte qui a été choisi dans Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu, viens à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Nous voyons déjà ici une des nombreuses prophéties. Et Pierre-André pensait à quelques centaines. En fait, il s'agit de 60 prophéties précises et de 270 allusions à Jésus, ou en tout cas au Messie tel que Jésus s'est présenté dans l'Ancien Testament. Un statisticien disait que pour que lui... des prophéties se réalisent chez un homme, simplement, il y avait une chance sur 10 puissance 17. Alors, une chance sur 10 puissance 17, pour les mathématiciens, vous savez peut-être ce que c'est, mais c'est simplement un 0 avec 17 chiffres derrière. Je ne sais même pas à quoi ça correspond. Et pour vous expliquer un peu l'image, pour m'expliquer l'image, l'auteur de cette étude disait que c'était comme si la surface de la France était couverte de 70 cm à 80 cm de pièces. À l'époque, c'était un dollar d'argent, donc ça doit correspondre à une pièce de 5 francs de l'époque, peut-être. La France entière serait couverte de ça. Et il y en a une qui serait marquée, et c'est la chance pour qu'un aveugle se balade sur la France entière et puisse, au hasard, dans cette masse de pièces, trouver la pièce. Autrement dit, c'est pas possible. Et en ce qui concerne Jésus-Christ, c'est 60 prophéties et c'est pas 8 prophéties. Et c'est 270 allusions. Que disent les Juifs à l'heure actuelle lorsqu'ils lisent Ésaïe ? Et lorsqu'ils lisent ces prophéties qui ont été écrites 600 ans avant Jésus-Christ ? Mais ils y voient d'abord le peuple d'Israël lui-même, qui était en exil à l'époque, qui pensait être abandonné par tous. Et pour eux, la terre était tellement importante. Mais ils avaient confiance. Et ils avançaient dans la confiance. Et Israël, en tant que peuple, a été le serviteur de Dieu aussi. Israël, nous dit Paul, a été un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Et Ésaïe, lorsqu'il a écrit cela, est-ce qu'il l'écrivait avec cette idée du Messie ? Certainement, parce que, curieusement, même à l'heure actuelle, les Juifs disent de ces textes qu'ils sont messianiques. Les Juifs disent que ces textes racontent quelque chose du Messie. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Nous, chrétiens, nous avons vu clairement, dans le chapitre qui a été lu par Pierre-André tout à l'heure, dans le chapitre 53 d'Ésaïe, qu'il s'agit de Jésus. C'est d'une clarté époustouflante. Le deuxième texte, c'est le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent, ils hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. En fait, c'est des extraits du psaume 22, qui est un psaume qui semble affreusement triste au départ. Et qui parle aussi de l'exil et tout ce peuple qui crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais pour nous chrétiens, ça nous rappelle quelque chose d'extraordinaire, cette phrase de Jésus sur la croix. Cette phrase de Jésus qui nous rejoint tous. Cette phrase de Jésus qui nous autorise, même dans nos plus grands désarrois, de pouvoir crier à Dieu « mon Dieu, mon Dieu ». Pourquoi m'as-tu abandonné ? Quel confort ça nous met tous de pouvoir aller jusqu'à là, lorsque nous sommes dans le désarroi. Mais de faire en sorte que, comme à travers ce psaume 22, il n'est pas que triste. À la fin, il est dans une réjouissance, une allégresse extrême, parce que finalement, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Finalement, Dieu n'a pas abandonné Jésus. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par là. Dieu, c'est comme Abraham, qui a levé la main sur son fils. Dieu à l'époque à Abraham avait retenu la main du patriarche et lui avait dit « Ne va pas jusqu'au bout dans ton geste. Il y a un bouc dans le buisson pour que tu puisses le sacrifier à la place de ton fils. » Mais au moment de la croix, Jésus devient péché pour toute l'humanité. Et devenant péché, il ne peut pas faire autrement que d'être abandonné par Dieu lui-même à ce moment-là. La souffrance doit être extrême. Mais Dieu, pour nous, va jusqu'à l'extrême, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu a mis le comble à son amour en nous offrant son Fils Jésus. Il a été jusqu'à là. Jusqu'à là. Son amour a été jusqu'à là. Et heureusement, la fin se termine bien, puisque vous savez qu'au troisième jour, Jésus est ressuscité. Et voilà toutes ces allusions à Jésus dans l'Ancien Testament, qui est quelque chose d'extraordinaire. Le troisième texte qui a été choisi, c'est dans Philippiens, chapitre 2, qu'on appelle aussi un cantique. Et d'ailleurs, dans vos Bibles, vous verrez qu'il apparaît comme un hymne qui était probablement chanté dans l'Église primitive. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu Saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre, sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé, roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus, le Maître, un jour devront paraître. Homme, ange, démon, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament. Toute bouche proclame Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer et la terre exaltent le vainqueur. Tout à l'heure, j'ai été béni par les larmes de Marc parce que je pouvais totalement m'identifier à lui dans le fait que lorsque nous nous retrouverons face au Seigneur, les choses sont tellement limpides dans ce que nous avons été dans notre vie que nous ne pourrons que le remercier à genoux et remercier de faire de nous leurs frères, leurs sœurs. C'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose de bon de le ressentir profondément comme Marc a pu le faire ce matin. Il nous en a fait bénéficier. L'évangile est très long pour ce jour, et dans l'Église catholique, on lit le texte entier de la montée de Jésus à Jérusalem, ensuite quand il passe devant Pilate, lorsqu'il affronte Hérode, enfin lorsqu'il meurt sur la croix, lorsqu'il est cloué entre les deux brigands. Et le texte, l'évangile qui est choisi, est celui de Luc. Et dans Luc, il y a quelques spécificités. Et l'une d'entre elles, c'est « Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » C'est quelque chose d'incroyable. Jésus est condamné par les maîtres de la loi, les gens religieux de son époque, qui avaient peur de perdre leur statut à cause de Jésus. Et c'est à eux qu'il va dire « Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Je ne sais même pas s'il en veut, et il en veut de toute manière à percer aux Romains. Les Romains ne font qu'exécuter les ordres aux bons soldats. Et c'est eux qui vont assister en direct à la mort du Seigneur. Le Seigneur, pour qu'il soit allé jusque-là, nous aime d'un amour incommensurable. Là où la grâce, le péché abonde, la grâce surabonde. C'est pas pour autant qu'il faut se vautrer dans l'erreur. Et moi, j'aime bien ce mot péché traduit, continuellement traduit. Péché, c'est un mot qui ne parle plus, c'est passer à côté de son existence. Simplement ça. Vous le savez quand vous passez à côté de votre existence, lorsque vous faites quelque chose et vous savez que ça aurait été mieux de le faire comme ça. Mais là, vous péchez, vous passez à côté de votre juste vie. Et ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est de réussir notre vie, de réussir notre existence, de ne pas pécher, de ne pas passer à côté de sa vie. Un commentateur du fils prodigue disait: ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le pécheur et le fait revenir à lui. Le Seigneur court. Vous lui tendez le petit doigt, il vous attrape. C'est ça, notre Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce qu'il a fait pour nous. Puissions-nous tous ressentir ces choses également. Une autre phrase dont Luc parle, qui est, concerne en fait l'apôtre Pierre, qui, vous savez, Jésus va lui dire: tu vas me trahir. 3 fois. Et Pierre va le faire. Mais il va lui dire une phrase avant. Il va lui dire, en Luc chapitre 22, verset 32, « Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et il lui dit ça avant que Pierre le trahisse. Et au moment où Pierre le trahit, ça c'est Luc qui le dit aussi, le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Il dit simplement ça. L'évangile ne dit pas l'interprétation du visage, du regard de Jésus. Il pose son regard sur Pierre. Et rappelez-vous ce qu'il a dit à Pierre: Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et Pierre, au lieu de sombrer dans la détresse, qu'ai-je fait? J'ai trahi mon Seigneur 3 fois. Il était fort de cette phrase qui disait: quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quand tu seras revenu de ton péché. Et son péché, c'était de l'avoir trahi Jésus. Son péché, c'était de ne pas avoir clamé sa foi en Jésus à ce moment-là. Il savait qu'il était passé à côté de sa vie à ce moment-là, Pierre. Mais le Seigneur lui avait dit: toi donc, quand tu seras revenu de ton péché, affermis tes frères. Et puis, il y a une troisième allusion qui n'est pas repérée dans les évangiles et qui est assez incroyable. Le texte dit en Luc, chapitre 23, verset 54, qu'au moment de cette horreur qui se passe à la croix, déjà brillaient les lumières du Shabbat. Comme si, dans cette horreur totale, les lumières du repos éternel étaient là. Les lumières de la préfiguration du monde à venir étaient déjà en place, étaient déjà là. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est qu'à travers les ténèbres qu'on a traversées, que le Seigneur a traversées, que nous traversons dans notre propre vie, eh bien, il y a cette espérance qui est immense. Cette espérance dont je parlais tout à l'heure. Il y a un chant que j'aime beaucoup, que chante la chorale, c'est « Derrière les nuages gris se cache un immense soleil ». Et nous savons là que le soleil est voilé, mais vous savez, vous et moi, que le grand soleil se cache derrière. On en est persuadés. Et pour terminer cette petite phrase de Paul Lynde, qui me disait que
la réalité de l'au-delà est plus réelle que ce monde-ci. Et je viens de finir un bouquin que Mariana et Pierre m'ont offert sur ce neurochirurgien qui a vécu une expérience de vie après la vie et qui se pose des grosses questions sur la conscience, parce qu'en neurologie, cette question de la conscience est mise de côté. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Et lui se pose ces questions scientifiquement. Il dit, mais pourquoi des études ne sont pas faites là-dessus? La conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est quelque chose, pour lui, qui est à côté du corps, qui est indépendant du corps. Que le Seigneur nous aide, chacun, chacune, dans les jours qui sont sombres dans nos vies, à être persuadé qu'il y a un grand soleil derrière qui ne demande qu'à briller et nous réchauffer. Amen.